Mon Père, au début de ce cours, nous voulions vous remercier du fond du cœur pour le nouveau cadeau que vous nous avez fait en éditant ce nouveau livre « Retour à la source ». Et pour nous, c'est vraiment un cadeau spirituel, Père.
Je l'ai écrit pour vous. Alors, c'est-à-dire comme un cours et non pas comme un livre ou alors j'ai mis ça au début du reste, je n'ai pas hésité de le mettre. Et parce que je ne suis plus capable d'écrire un livre. C'est mieux que moi. Cette étude de la philosophie première, je l'écris avant tout pour mes frères de Saint-Jean et pour tous ceux qui veulent suivre saint Thomas dans leur lecture de la somme théologique. Si la philosophie première vient à manquer, la théologie perdra nécessairement sa noblesse de sagesse, car elle s'orientera vers l'histoire ou la critique. Certes, l'étude des pères de l'Église est très importante, mais elle demeure descriptive, évidemment très proche de beaucoup de pensées modernes. Saint Thomas a révélé tout ce qu'il y a en eux de sapiential et nous permet de développer une vraie théologie sagesse. Si j'écris cette étude, c'est aussi pour nos frères orthodoxes et protestants. Mais c'est le gros point très délicat par rapport aux frères protestants et frères orthodoxes, c'est que les orthodoxes supportent encore une métaphysique, mais il faut les faire très fort dans le sens de saint Augustin. Et les protestants sont farouchement opposés à une pensée métaphysique. C'est eux qui nous entraînent dans toute la philosophie contemporaine. Il ne faut pas l'oublier, ça, que la philosophie contemporaine est originaire du protestantisme. Occam est quand même le premier qui a refusé la possibilité de découvrir l'existence de Dieu. Occam, 14e siècle. Quelqu'un comme André de Muralt, que j'aime beaucoup, qui était protestant, puis qui est devenu catholique, s'est attaché énormément à la pensée de Occam. Je l'avais orienté vers ça. Alors il m'a dit, mais Occam va beaucoup plus loin que les protestants. Et Occam n'est jamais sorti, Occam n'est jamais sorti de l'Église. L'Église était, à ce moment-là, le pape était à Avignon. Alors, forcément, à Avignon, ils étaient moins stricts. Il y avait le bon vin. Du Châteauneuf des Papes. Et depuis ça, depuis Avignon, tous les ans, le cru Châteauneuf du Pape envoie au Saint-Père une certaine quantité de bouteilles du Châteauneuf du Pape. C'est très bien, bonne tradition. Alors vous voyez, d'une certaine manière, j'avais hésité beaucoup, parce qu'un livre, comme il est conçu aujourd'hui, ce n'est plus tellement intéressant, parce que c'est du surfait, c'est fait quoi. Ce qui semble plus utile, ce qu'a fait du reste Bergson, c'est éditer une pensée qui cherche. C'est ça la philo. La philosophie, c'est une pensée qui cherche. C'est une pensée qui ne s'arrête jamais. On peut, à un moment donné, c'est ça. Déjà maintenant, certaines choses, je ne les écrirai plus. On ne peut pas changer tout le temps. Mais je l'écris très nettement comme une pensée de recherche. Mon idée foncière, c'est que la métaphysique a commencé pour nous chez les Grecs. Elle s'est appuyée sur la grande distinction nature-personne chez Aristote. Et à partir du XIVe siècle, la métaphysique a voulu être uniquement de la personne. C'est très nettement, on a le premier mouvement de la métaphysique. Vous savez que le mot métaphysique, c'est l'expression des bibliothécaires. Ce n'est pas du tout l'expression d'Aristote. Aristote n'a jamais parlé de métaphysique. Aristote a parlé uniquement de philosophie première. Mais les bibliothécaires, qui ne sont pas nécessairement des philosophes, les bibliothécaires ayant redécouvert les livres d'Aristote, ont vu tous les livres physiques. Puis après la physique, ils ont vu des livres qui n'étaient plus des livres physiques, de la nature. Alors ils ont dit métaphysique. Donc c'est une expression de travailleurs qui mettent premièrement la physique, et la physique d'Aristote est énorme, elle prend presque tout. La métaphysique d'Aristote est très peu de choses au point de vue quantitatif par rapport à sa physique. Alors méta, ça veut dire après. Après la physique, c'est l'après-métaphysique. Et on aurait dû, et on devrait dire, philosophie première, toujours. Aristote a sans doute écrit un livre sur Dieu, le Peritouteo, qui se trouve inscrit dans les catalogues d'Aristote, de Peritouteo, mais il est perdu. Alors, on ne l'a pas redécouvert. Crawford qu'il aurait écrit un livre sur Dieu. C'est ça qui l'intéressait. Parce que la métaphysique, la presse de la physique, c'est en vue de la connaissance de Dieu. Alors, ça, c'est uniquement la métaphysique. Et le livre suivant, ce serait sur la découverte de Dieu. Où je crois que les scolastiques se sont trompés en faisant que pour eux, il y a 5 voies de recherche de l'existence de Dieu, alors que pour Aristote, c'est très net, il n'y en a qu'une. C'est celle de la cause finale. Je ne peux atteindre Dieu que par la cause finale. Et tout ce qui est avant, ce sont des voies d'accès. C'est la cause finale seule. Et ceci, c'est très simple à comprendre. Pour saint Thomas, la question, c'est vraiment une question. Dans la question, il y a les articles. Et chaque article a son unité. Or, on a fourré dans la question, dans l'article d'accès vers Dieu, 5 voies différentes. Ce qui est tout à fait contraire à saint Thomas. Et on s'est complètement, dans la scolastique, complètement trompé pour les voies d'accès à l'égard de Dieu. Vous voyez comme c'est grave. Parce que des gens très sérieux qui ne font pas un vœu de fidélité à Thomas d'Aquin, quand ils voient les 5 voies d'accès à l'existence de Dieu, il dit c'est impossible. Saint Thomas dit il n'y en a qu'une par le point de vue de la finalité. Or, le point de vue de la finalité est développé en éthique avec l'amitié. Il faut donc reprendre les voies d'accès à Dieu par l'amitié. C'est beaucoup plus proche de saint Augustin, reste. Est-ce que je peux découvrir Dieu? Posez-vous la question. Est-ce que je peux découvrir Dieu en regardant la nature? Ou est-ce que je peux découvrir Dieu en regardant la personne? Quand je vois la différence entre nature et personne, est-ce que c'est le point de vue phusis qui me permet de découvrir Dieu? Ou au contraire, le point de vue personne? Je ne peux décrire Dieu que comme une personne. Le découvrir comme être, c'est le découvrir avant tout négativement. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Les 6 négations de l'article sur la simplicité de Dieu. l'être, j'ai qu'une connaissance analogique. Donc je ne peux pas saisir l'existence de Dieu. Tandis que l'amitié a autre chose. La philosophie de l'amitié pose le problème de Dieu. Quand je découvre un ami et que j'aime un ami et que je découvre ce que représente la philia, l'amitié, je me pose la question, mais est-ce que c'est l'ami qui est la finalité dernière? Donc, à partir de la philia, de l'amitié, je me pose le problème de l'existence de Dieu. Alors évidemment, ça renverse complètement toutes les études qui ont été faites dans la scolastique. Alors, j'avais fait cette conférence il y a déjà longtemps à l'Angélique à Rome. À l'Angélique, comme professeur de Fribourg, j'avais le droit de faire des cours à l'Angélique, puisque c'est deux universités dominicaines. Alors j'avais fait un cours en posant la question. Alors à la fin du cours, tous les vieux professeurs dominicains de l'Angélique étaient là. Alors, mon père, vous détruisez la scolastique. Alors, j'avais dit, mais ce qu'on cherche, c'est ni d'être des gens qui veulent que la scolastique soit la vérité, ni des gens qui veulent détruire la scolastique. Ce qu'on cherche, c'est la vérité. Alors, dites-moi en quoi je suis contraire à la vérité en disant la parole de saint Thomas, on ne peut découvrir Dieu que par la finalité. Si on ne peut découvrir Dieu que par la finalité, il est bien évident que l'expérience que j'ai, la plus forte de la finalité, c'est l'amitié. Donc, je me situe en face de l'amitié pour découvrir l'existence de Dieu. C'est beaucoup plus proche de nous. J'ai une expérience de l'amitié. J'ai une expérience de l'ami. Donc, c'est existentiel ou existentiel. Et vous voyez, la scolastique est tellement habituée aux cinq voies d'existence de Dieu que toucher à ça, c'est... Alors que pour Thomas d'Aquin, les cinq voies, ce qu'on appelle les cinq voies, c'est montrer que je ne découvre pas Dieu tout de suite. Il faut du temps. Dieu est au-dessus de tout mouvement. Dieu est au-dessus de tout possible. Dieu est au-dessus de tout ce que je peux penser. Dieu n'est pas premièrement dans ma pensée, puisque dans ma pensée, je n'ai pas de définition de Dieu. Et donc, je ne peux que affirmer son existence. Et affirmer son existence est à partir de la personne humaine que je suis le mieux placé pour dire que la personne humaine appelle l'existence d'une autre personne. Alors évidemment, ça fait que les thomistes qui aiment plus la scolastique que saint Thomas ne peuvent pas entrer là. Et si le thomisme est si peu connu chez les intellectuels, c'est qu'il y a quand même une erreur. C'est qu'on veut atteindre la philosophie par la théologie. Saint Thomas est un théologien et non pas un philosophe. Saint Thomas s'est servi d'une philosophie aristotélicienne et il reconnaît toujours le philosophe, c'est Aristote. Alors, si on veut comprendre Thomas d'Aquin, je crois la chose première, c'est de comprendre ce que lui-même ne cesse de nous dire. Le philosophe, c'est Aristote. Voilà.
Merci, Père. Au prochain cours, on vous posera des questions sur l'ouvrage. Vous voulez revenir sur ce que nous avions vu la fois dernière? Vous avez insisté pour situer la dimension religieuse de la personne par rapport à la découverte philosophique de l'existence de Dieu. Cependant, beaucoup d'hommes vivent de cette dépendance et parfois d'une manière très profonde et très personnelle à travers les traditions religieuses. Quelle différence entre la dimension religieuse de la personne humaine découverte en philosophie et celle que véhiculent les traditions religieuses?
C'est une question très importante, celle-là. Je crois que découvrir l'existence de Dieu par l'amitié, beaucoup plus de monde et de philosophes peuvent le faire que de découvrir l'existence de Dieu comme l'être premier. Et ce sont les deux pôles. Hein. Découvrir Dieu comme être premier, c'est le découvrir par la nature. Découvrir Dieu comme une personne, c'est le découvrir à travers le point de vue de la personne et de l'amitié. Il y a vraiment deux voies. Mais ces deux voies s'unissent parce que je n'ai pas l'expérience directe de l'être en tant qu'être. L'expérience directe de l'être en tant qu'être combien de personnes comprennent? j'en ai pas l'expérience. C'est déjà toute une réflexion. L'expérience est très loin, parce que l'être en tant qu'être n'existe pas. C'est le fruit de l'intelligence. Tandis que l'amitié, elle existe. Elle est rare, mais elle existe. Alors, je puis, par l'amitié, découvrir qu'il y a un être premier, un premier ami. Je découvre Dieu par l'amour et non pas par l'être. Je découvre lui par la bonté. La bonté est convertible avec l'être. Et donc, découvrant Dieu par l'amitié, je le découvre comme l'être premier. Mais je puis, avant cette découverte, m'appuyer sur ceux qui, philosophiquement, sont devant moi. Le philosophe n'est jamais seul. Il est l'ami de tous les philosophes. En ce sens que il cherche la vérité comme tous les philosophes. Je peux donc m'appuyer sur toutes les recherches philosophiques qui ont été faites sur l'existence de Dieu. Je m'appuie alors sur l'opinion des philosophes. Et au point de vue pratique, l'opinion des philosophes est suffisante pour adorer Dieu. De sorte que il y a les deux aspects. L'aspect religieux peut naître à partir d'une découverte de l'existence de Dieu par l'amour. Elle peut aussi s'appuyer sur la découverte de tout les grands philosophes. Et une recherche de Dieu chez saint Augustin, qui est pour moi. Il y a une recherche de Dieu chez saint Thomas, qui est pour moi. Il y a une recherche de Dieu chez tous les philosophes. Chez les pères de l'Église, un seul père de l'Église, un seul, dit l'intelligence ne peut pas atteindre Dieu. C'est un petit père de l'Église. J'oublie toujours son nom, mais il n'y en a qu'un. J'ai voulu faire l'enquête. Tous les pères de l'Église affirment que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. C'est quand même assez étonnant, hein. Donc les protestants s'affirment comme rupture de cette grande tradition. Occam, le premier. Une grande tradition chez les pères de l'Église. les pères de l'Église ne sont pas des imbéciles. Il y a une grande tradition, affirmée l'existence de Dieu. Donc, je me mets dans cette tradition catholique. Et cela me suffit pour pouvoir vivre de l'existence de Dieu. Donc, de l'adorer. Quand j'aurai suffisamment d'intelligence et d'amour pour faire cette découverte par moi-même, ça m'aidera à découvrir Dieu d'une façon plus proche. Mais elle s'affirme dans une tradition. Et ça, c'est très important.
On va faire un petit saut, Père. En réalité, la découverte philosophique de l'être premier peut-elle se faire in abstracto de toute tradition religieuse ?
Non.
Même en philosophie ?
Elle ne se fait pas in abstracto. Elle se fait par l'expérience.
Non, in abstracto de toute tradition religieuse.
Ah, in abstracto de tout. C'est-à-dire... Je n'en ai pas besoin. Je fais partie de ces traditions. Je ne m'en exclus pas. Je fais partie de ces traditions, comme je fais partie de la tradition de tout homme qui cherche la vérité. Tout homme qui cherche la vérité est mon ami. Il faut dire ça, du reste, constamment. À des gens qui ont des théories tout à fait différentes. Vous cherchez la vérité, moi aussi. Donc nous sommes amis là-dessus. Nous avons pris des chemins différents. Très bien. On peut se rencontrer maintenant, se reposer quelques instants. Vous avez pris cette voie, vous vous reposez. J'ai pris cette autre voie, je me repose. Mais nous cherchons si on peut vraiment découvrir Dieu par notre intelligence. Oui. Alors, là, je ne rejette pas les traditions religieuses, je m'en sers comme les traditions de tous ceux qui cherchent la vérité. Mais c'est très long, hein. Si je ne pouvais découvrir l'existence de Dieu que par la tradition de tous les philosophes, je n'en ai pas fini. Et puis je verrai que certains philosophes ont nié l'existence de Dieu. Je me heurterai à ce grand courant allemand d'une philosophie des Lumières opposée violemment Dionysus à Feuerbach. Et je verrai que Feuerbach a été celui qui a mis les obstacles de la manière les plus nettes. Et donc, ça m'intéresserait de lutter contre Feuerbach. D'être le petit David contre le grand colosse de l'athéisme, de l'illuminisme allemand. Feuerbach est quelqu'un qu'on doit tous connaître. Parce que, avec Feuerbach, on voit tout de suite d'où est né l'athéisme ? L'athéisme dans lequel nous sommes. Feuerbach C'est facile à lire, tu vois. Il y a une très bonne traduction et c'est vrai. C'est très facile à lire, de voir le sophisme venir bas. Et beaucoup d'athées s'appuient sur Feuerbach. Feuerbach est un tournant.
Père, qu'est-ce que l'amitié précise ? Qu'est-ce que l'expérience de l'amitié précise par rapport à l'expérience pratique des traditions religieuses ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas partir des traditions religieuses ?
Les traditions religieuses me donnent une opinion, mais pas plus.
Mais est-ce que ce n'est pas une expérience pratique qui m'est déjà donnée dans la cité ?
Oui, d'une certaine... mais une expérience, ça ne se transmet pas. Une expérience est toujours personnelle. Oui, je vois que pour eux, l'existence de Dieu a reposé sur leur expérience vitale, très souvent de l'amitié, chez saint Augustin, oui. Chez Aristote, oui. Pourquoi, je me suis posé la question, loyalement, pourquoi saint Thomas a-t-il eu le courage de rompre avec la Sorbonne et d'aller auprès des philosophes aristotéliciens, de revenir à Aristote. Pourquoi ? Dans la pensée de saint Thomas, c'est capital. J'ai dit pendant mes premières années, les 10 premières années de mon enseignement, j'ai toujours regardé le commentaire de saint Thomas des sentences et ce qu'il disait dans la Somme, en comparant loyalement les deux. Alors, vous prenez ça, saint Thomas, par les deux oreilles, et vous dites à ça, « Ah, je vois pourquoi tu as quitté Pierre Lombard et tu as suivi Aristote. » Ça, je crois que c'est une expérience qu'on doit tous faire. Pierre, les sentences de saint Thomas et la Somme, les parallèles, sur la même question. Qu'est-ce qu'il y a la comparaison ? Dans les sentences, saint Thomas demeure toujours dans la propriété. Dans la Somme, il découvre le principe. Donc, ce passage propriété au principe, c'est le passage du commentaire des sentences à la Somme. Nous, au début, on reste toujours dans la propriété. On ne saisit pas les principes. On a du temps avant de saisir les principes. Or, la métaphysique et la philosophie, elles commencent par la saisie des principes. Le principe, c'est la substance et c'est l'acte. Point de vue métaphysique. c'est intéressant de saisir ça chez quelqu'un comme Thomas d'Aquin, qui le premier à le faire. On voulait que Thomas d'Aquin continue de suivre Pierre Lombard, où il y avait une petite tradition de 100 ans, à peu près. Depuis 100 ans, tout le monde suivait Pierre Lombard. Et saint Thomas a commencé d'enseigner Pierre Lombard. Saint Thomas n'a pas continué. Pourquoi ? Saint Thomas, avec Pierre Lombard, en étudiant Pierre Lombard, a éprouvé le besoin d'aller plus loin. Il a été chez Aristote pour découvrir les principes. Le philosophe. Et c'est tangible quand on fait cette comparaison de Pierre Lombard et de les sentences et la somme. C'est tangible. Alors j'avais beaucoup de chance, c'est qu'il y avait à ce moment-là une brave tertiaire très dévouée qui avait une petite revue, le bulletin de Caen, qui tous les mois recevait mon article où je comparais les deux. Ça m'obligeait de l'écrire, vous comprenez. C'est toujours très utile, ça. Ça m'obligeait de l'écrire parce que on est paresseux. Alors on dit, oh, j'ai compris, c'est suffisant. Non, écrivez-le. Et quand on écrit, on voit qu'en effet, les choses demandent d'être plus précises. Et tous les mois, j'envoyais ce petit article au bulletin thomiste. S'il n'y avait pas eu le bulletin thomiste, j'aurais été paresseux, comme tout le monde, et je ne l'aurais pas fait. Tandis que là, ça m'a obligé de le faire. Et alors, il y a un brave Canadien, je ne sais plus son nom, qui a su ça, et qui m'a dit, oh, je vais essayer de vous prendre tous ces articles et de les réunir dans un livre pour qu'on puisse plus facilement les avoir et là, voir votre démarche par rapport à Thomas d'Aquin. Alors, j'ai dit à ce Canadien, très bien, faites ça. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a vu que c'était très intéressant de voir ce passage de la propriété au principe. La propriété reste un accident. Le propre est un accident. Donc c'est pas le principe. Et Pierre Lombard demeure dans les propriétés. Et saint Thomas, revenant au principe, a pu distinguer, comme il l'a fait dans la somme, de Deo uno, de Deo trino. C'est grâce à la distinction de la propriété du principe. Mais je crois que c'est ça qui est au fond très intéressant, de voir comment saint Thomas est devenu Thomas d'Aquin. Comment saint Thomas, qui était, comme nous tous, étudiant, très vite, à 25 ans, saint Thomas a quitté Pierre-Lombard. Et c'était quelque chose, hein. Quitter Pierre-Lombard, c'était quitter la Sorbonne. Il a voulu donner une nouvelle théologie, la Somme. Et il l'a donnée pour les étudiants. Il l'a donnée pour les étudiants, c'est-à-dire tout le travail qu'il avait fait, il a voulu nous le donner pour que nous puissions plus facilement distinguer ce que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même et ce qu'elle ne découvre que par la foi. Et saint Thomas a fait un travail extraordinaire, sapiential, puisque la sagesse, c'est la découverte des principes. Tant qu'on n'a pas découvert les principes, on n'entre pas dans la sagesse, puisqu'on ne peut pas découvrir l'existence de Dieu. Et exactement, pour lui, tout le but de la philosophie, c'est de découvrir l'existence de Dieu. Tout le but de la théologie, c'est d'écouter Dieu.